Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie de Michel Marian, agrégé de philosophie. Vous avez enseigné à Sciences Po à Paris, vous écrivez et publiez, entre autres dans la revue Esprit, bientôt dans le numéro, un numéro spécial d'Historia sur les Arméniens de France dont nous reparlerons. Et ce matin, nous allons nous replonger ensemble au Caucase pour évoquer des relations importantes entre la Géorgie et l'Arménie, deux pays voisins, parfois rivaux, faut-il le dire, mais qui partagent un lien commun avec l'arrivée du christianisme dans ces contrées. Une farouche volonté d'indépendance aussi, d'un côté avec l'Empire russe, de l'autre côté avec l'Empire ottoman. On va pas revenir dans ces histoires parfois extrêmement mouvementées, mais j'aimerais bien que nous comprenions ce matin dans Chrétien d'Orient cette différence peut-être entre ces peuples géorgiens et arméniens, cet état d'esprit qui les unit aussi, le Caucase. Et vous, Michel Marian, vous êtes véritablement la personne pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Sébastien de Courtois. Oui, je crois qu'il faut d'abord insister sur la similitude de conditions historiques entre ces deux peuples. Les deux sont des peuples anciens. Ça joue un rôle très important dans leur image, évidemment, d'eux-mêmes. Ce sont des peuples proches géographiquement, caucasiens, c'est certain. Et ce sont des peuples qui ont eu à affirmer leur indépendance face à des empires. Il y a les empires actuel, mais il y a eu les empires, les nombreux empires du passé, et ils ont eu donc à quelquefois des difficultés avec leurs voisins, et puis ils ont eu des difficultés dans leur unité, ils ont eu des difficultés à s'unifier. Ce qui fait que l'un et l'autre, souvent, se sont retrouvés avec un système de gestion de leur identité par la dualité, voire la duplicité. Chez les Arméniens, c'est les deux catholicosa, par exemple. Chez les Géorgiens, c'est le fait que il y a eu longtemps deux noms qui ont caractérisé différentes régions de Géorgie, la Colchie délibérée dans l'Antiquité, ensuite le rapport avec les Mingréliens, les Svanes et les Géorgiens, ou strictement, qui eux-mêmes avaient les royaumes de Kakhétie, de Kartli. Donc, cette façon de faire de l'unité avec la pluralité, elle a pu poser des problèmes qui ont été gérés différemment par l'un et par l'autre. Néanmoins, cette similitude de conditions historiques, ça c'est très important. Alors ensuite, il a pu y avoir des différences de situation. Et ces différences de situation ont pu amener même des oppositions dans leur positionnement, notamment par rapport à ces empires.
Alors quelques informations d'abord sur la géographie. Nous sommes dans le Caucase. En deux mots, l'Arménie politique actuelle est enclavée à l'intérieur de terres, avec des frontières fermées vers l'Azerbaïdjan et la Turquie. La Géorgie, pays qui a une ouverture maritime.
Oui, sur la mer Noire, alors que l'Arménie n'a pas de mer, elle a le lac Sevan, dont elle est très fière, puisque c'est un lac de haute montagne et en même temps un lac d'eau douce, un lac très grand, donc c'est sa mer à elle, mais évidemment ça n'offre pas le débouché qu'offre la mer Noire à la Géorgie. Alors, il faut ajouter peut-être, puisque on parle maintenant, on essaie de définir l'actualité des situations, que la Géorgie est actuellement dans un conflit avec la Russie qui soutient la sécession de deux provinces géorgiennes, enfin de deux d'une ancienne république autonome au sens soviétique et d'une ancienne région autonome, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et que l'Arménie est dans une situation plutôt inverse, c'est-à-dire que elle a réuni le Haut-Karabakh, qui était une région autonome de l'Azerbaïdjan, peuplé majoritairement d'Arméniens, à l'Arménie elle-même. Et ces trois entités, les deux du côté géorgien et celle du côté arménien, ne sont pas reconnues par la communauté internationale. La Géorgie est donc, on peut dire, dans le camp des puissances conservatrice du point de vue international, c'est-à-dire défendant la légalité de sa souveraineté sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, alors que l'Arménie est plutôt dans le camp des puissances, si on peut appeler ça camp, du côté, disons, des puissances révisionnistes, puisqu'elle elle aurait besoin d'une reconnaissance légale de l'arménité du Haut-Karabakh.
Deux langues différentes, il faut quand même le rappeler. Et même s'il y a cette origine très précoce du christianisme, des formes différentes aussi.
Alors, deux langues différentes, en effet. Et là, de ce côté-là, c'est plutôt l'Arménie, je dirais, qui est un peu désenclavée, parce que elle appartient à l'indo-européen. On l'a même située. C'est une langue qui est, disons, aujourd'hui entre le grec et l'iranien, mais qui était liée à des langues d'Anatolie qui ont disparu. Le phrygien, qui était quand même la langue de Priam et d'Hector, c'est pas rien. Le thrace, enfin bon, des langues de ce type-là, ce qui fait que l'arménien circule a toujours beaucoup intéressé des linguistes qui n'étaient pas seulement des linguistes spécialisés dans l'arménien, mais des linguistes de l'indo-européen, Meyeb, Inveniste, etc. Alors que le géorgien, lui, c'est une langue caucasienne. Alors, c'est pas la seule langue caucasienne, il y a pas mal de langues caucasiennes, mais leur particularité, c'est qu'elles sont très, comment dire, sui generis. Okay.
Et sur l'histoire du christianisme,
alors sur l'histoire du christianisme, quelques mots sur ce qui a vertébré quand même donc des peuples qui existaient auparavant, mais qui n'avaient peut-être pas le même sens de l'identité. Il y avait un royaume d'Arménie, et je l'ai dit, pour la Géorgie, il y avait plutôt une dualité entre Colchide, Ibérie, avec de temps en temps des moments d'unité. Donc ça existait, mais il est certain que c'est le christianisme, et j'allais dire en plus le christianisme tel qu'ils l'ont vécu et enrichi, qui a conforté leur indépendance et qui leur a donné la durée qu'ils ont eue malgré les vicissitudes géopolitiques qu'ils ont dû subir. Pour l'Arménie, traditionnellement, on dit le premier État chrétien qui s'est converti dès l'an 301. Les historiens ont plutôt tendance maintenant à considérer que cette conversion, elle a été à peu près simultanée de celle de l'Empire, enfin de celle de Constantin, hein, qui n'a pas converti tout l'Empire, mais qui a fait l'édit de tolérance par rapport aux chrétiens, ce qui est quand même ça la date importante. Mais c'était donc un choix, qui était un choix de croyance contre les mages, le zoroastrisme, le dualisme, etc. Et également un choix politique d'aller vers l'Ouest. Pour la Géorgie, les dates sont un peu plus récentes, mais enfin très anciennes aussi. Entre mi-4e siècle et mi-5e siècle, avec le Saint Nino en particulier, évidemment, les Arméniens peuvent avoir tendance à... Ils ont eu tendance dans le passé à, j'allais dire, user, voire abuser de leur légère ancienneté pour essayer d'exercer une autorité sur l'Église géorgienne. Et effectivement, on ne sait pas très bien s'il y avait une autorité institutionnelle, légale, entre guillemets, de l'Église arménienne sur l'Église géorgienne au début. Mais il y avait le poids, le nombre et l'ancienneté de l'Église arménienne qui pesait d'une certaine façon. Donc il y avait cette unité pendant quelque temps des églises transcaucasiennes, mais avec cette influence un peu forte, disons, de l'Église arménienne sur ses deux voisines. Bon. Et puis il y a eu le fameux concile de Chalcédoine, et c'est à partir de ce concile où l'Arménie a décidé de se séparer, disons, du courant majoritaire, surtout du courant byzantin à l'époque, à cause des influences de l'Empire, peut-être aussi parce que elle a considéré, enfin ses prêtres, ses théologiens, qui étaient nombreux, qui étaient formés, ont considéré que là, le raffinement théologique était excessif et dépassait la volonté simple d'éclairer la foi. En tout cas, ils ont rompu avec, pas seulement eux, les Coptes aussi, à peu près.
Au milieu du 5e siècle.
Alors, c'est-à-dire, le concile a eu lieu au milieu du 5e siècle, mais il y a eu vraiment un siècle et demi d'hésitation chez les Arméniens, et la rupture vraiment dans un concile de devines aux alentours du début du 7e siècle, elle a été nette. Et elle a été nette, mais elle a entraîné, du coup, une rupture dans ce qui était les chrétientés transcaucasiennes, puisque les Géorgiens, après eux aussi avoir réfléchi longtemps, n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que finalement ils étaient d'accord avec le concile de Chalcédoine, et ce qui leur permettait de troquer l'influence arménienne un peu pesante, j'ai dit, et voisine, contre l'influence grecque qui pour eux était un peu plus éloignée, un peu moins lourde. Et ça paraît un peu surannée de parler de ça, mais du coup, il y a 4-5 siècles au moins de rapports entre Géorgiens et Arméniens qui ont été dominés par ces controverses sur Chalcédoine, des controverses qui pouvaient s'étendre à des tas de niveaux, aussi bien les calendriers religieux, aussi bien la question de savoir si on avait le droit de célébrer la messe en dehors des églises, sur des autels portatifs. Les Géorgiens répondaient oui, les Arméniens non. C'était embêtant sur un champ de bataille. Tout ça, ça a été des éléments qui ont amené des frictions, même au moment où les politiques arrivaient à créer de l'unité entre les deux peuples. Et il y a eu des moments assez beaux, j'allais dire, au XIIe, au XIIIe siècle, et sous suzeraineté politique géorgienne, mais avec une forte présence des Arméniens. Et là, les hommes politiques essayaient de faire en sorte que les églises réduisent un peu leur rigidité l'une face à l'autre, de façon à créer un État pluriconfessionnel. Et d'ailleurs, ce pluriconfessionnalisme, donc encouragé par la dynastie de David le Reconstructeur et de sa fille Tamar, dynastie géorgienne des Bagratouni, cette dynastie a étendu le multiconfessionnalisme d'ailleurs aux musulmans et aux juifs. Mais enfin, la base, le noyau qui permettait que ça dure, c'était un noyau géorgio-arménien.
Nous sommes en compagnie de Michel Marian ce matin pour évoquer les relations entre la Géorgie et l'Arménie. Alors si nous avons parlé de l'histoire, maintenant parlons un petit peu du présent. Qu'en est-il de ces rapports, de l'influence de ces rapports identitaires peut-être dans la gestion actuelle des relations ?
Je crois que le présent commence à la conquête russe du début du 19e. Ça a créé des moments de solidarité entre Arméniens et Géorgiens. En particulier à la fin du brejnevisme, lorsque les autorités soviétiques ont essayé de rendre le russe langue première de toutes les républiques. Et là, chacun à sa façon, mais les Géorgiens et les Arméniens ont réagi. Les Géorgiens en faisant de grandes manifestations, c'était en 79, les Géorgiens en faisant de grandes manifestations de rue, les Arméniens en intervenant activement en coulisses et à l'international, comme on dit aujourd'hui. C'était un moment de solidarité. Il y a eu d'autres moments qui ont été des moments un petit peu de rivalité. Par exemple, entre 1920 et 1936, au moment où la Géorgie était hégémonique dans une république transcaucasienne qui était dirigée par quelqu'un d'aussi sympathique que Beria.
Donc Staline qui était géorgien.
Et Staline et Beria qui était l'ami de Staline qui lui était à Moscou et qui je veux pas dire qu'il encourageait les Géorgiens, mais il y a eu les bases d'une rivalité à ce moment-là. Alors aujourd'hui la situation est ambivalente. Elle est ambivalente parce que d'une part, donc pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, la Géorgie est conservatrice entre guillemets et l'Arménie révisionniste entre guillemets, pour la raison qui existe elle depuis le début du 19e, c'est que la Géorgie a d'abord peur de la Russie et l'Arménie a d'abord peur de la Turquie, et on pourrait ajouter l'Azerbaïdjan a d'abord peur de l'Iran, donc chacun a peur de quelqu'un d'autre, donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes priorités, les mêmes agendas. La Géorgie définit donc son objectif stratégique de sécurité et d'identité, on va revenir là-dessus, par le mouvement vers l'Ouest,
oui.
OTAN et Union européenne. L'Arménie, au contraire, se définit dans une diplomatie de complémentarité, alliée stratégique de la Russie, dont elle considère que c'est le seul rempart face à la Turquie, mais en même temps, réaffirmation forte de ses liens avec l'Ouest. Avec l'Ouest, au sens partenariat avec l'OTAN, de temps en temps exercices, manœuvres, etc. Convention forte avec l'Union européenne, mais pas dans le cadre d'un statut de rapprochement et d'intégration. Et puis est arrivé le nouveau gouvernement porté par un mouvement démocratique, il y a un an et demi, le gouvernement de Nikol Pachinian. Et puisque c'est notre sujet aujourd'hui, les relations avec la Géorgie, les relations sont notablement différentes, malgré le fait qu'aucun des deux pays n'ait remis en cause sa position de base. Mais Pachinian a, d'une part, affirmé clairement que les relations avec les Arméniens de la région du Djavark, qui est en Géorgie, mais qui est en majorité arménienne, qui jusque-là a été l'objet de... pas d'encouragement explicite de la part des autorités d'Irevan, mais quand même, elle poussait un peu à une forme de, je sais pas comment dire, d'insubordination des Arméniens du Djavark. Là, Pachinian a déclaré que il y avait sans doute des évolutions à avoir au Djavark, mais que rien ne se ferait sans discussion entre Yerevan et Tbilissi. Première position assez forte. La deuxième position, ça a été à l'ONU, tous les ans, il y a un vote, justement, sur ces questions de conservatisme révisionniste dont je parlais. Il y a un vote à l'ONU pour savoir si on condamne ou pas la sécession de l'Abkhazie et l'Ossétie. Jusqu'à présent, l'Arménie s'était toujours alignée sur les Russes. Depuis que ce vote existe, je crois qu'il existe depuis 2008.
Et il y a un petit changement récemment.
Oui, il y a un changement. Elle s'est abstenue. Et c'est un geste qui est, vous comprenez bien que dans la région... il a un sens.
Donc une volonté de rapprochement de la Géorgie.
Je crois que ça veut dire la chose suivante, mais j'interprète, ça n'a pas été dit comme tel. C'est très bien, chacun a son engagement stratégique pour des raisons qui sont compréhensibles et ce n'est pas le même, mais chacun doit demander aussi dans son camp à bénéficier d'une exception de relations spécifiques avec l'autre. Avec le voisin. Je pense que c'est extrêmement clair dans la tête de Nikol Pachinian, qui est le premier ministre arménien. Est-ce que c'est aussi clair dans la tête des dirigeants géorgiens? Ben, j'ai l'impression que oui, en tout cas quand on entend la présidente Salomé Zourabichvili, on a l'impression qu'il y a cette idée d'une relation spécifique qui doit pouvoir être préservée des contraintes qui, elles, sont davantage liées aux alignements géopolitiques.
Donc ce sont des messages d'espoir pour l'avenir, pour une réconciliation régionale?
Ça paraît des messages qu'on aurait aimé entendre depuis un certain temps. Parce que, bien sûr, il y a toujours des conflits, il y a toujours... Mais entre Arménie et Géorgie, il n'a jamais rien eu d'irréparable. Jamais rien, peut-être que rien n'est irréparable, mais jamais rien de difficilement réparable. Il y a eu, en particulier en 1920, mais ça a duré quelques jours, quelques petits affrontements armés pour des délimitations de frontières qui finalement n'ont pas été totalement à l'avantage de l'un ou de l'autre sur le Lori et le Djavark. Bon, c'est pas... franchement...
Vous qui êtes familier des deux cultures, on sent quand même que les gens sont faits pour s'entendre plus que pour se diviser. Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation extérieure aussi à, ce jeu?
Bien sûr, il y a... c'est une région du monde, cette Transcaucasie, où les gens sont en permanence, quand ils réfléchissent à la région dans laquelle ils vivent, ils sont toujours déchirés entre un sentiment d'identité un petit peu exacerbé et le mythe d'une Transcaucasie qui serait soustraite à la poigne et aux manipulations des empires. Donc ce mythe existe. Comment l'amener à exister un peu plus, comme non pas comme mythe, mais comme devenir, transformation de la réalité, c'est une question qui est délicate, parce que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont quand même un fossé entre eux, donc ça devrait donner à la Géorgie une responsabilité de médiateur. Est-ce qu'elle peut la prendre tant qu'elle n'a pas elle-même réglé ses questions avec Abkhaz et Ossète? Tout ça est difficile, mais il faudra bien y arriver. Tous ces peuples, même les Azerbaïdjanais, sont très anciens dans la région.
Une question, Michel Marion, qui peut les réunir, celle de la foi?
Sur la foi, c'est compliqué, parce que l'Église géorgienne est orthodoxe. Ce qui veut dire que elle peut considérer qu'elle est un pont entre la Russie et le peuple géorgien. Mais c'est très difficile, étant donné le caractère chatouilleux de cette identité géorgienne, où vraiment, en ce moment, il y a une division entre la part occidentale de l'identité et la part orthodoxe, la part religieuse. Les deux sont très fortes. L'Église arménienne, elle, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle cultive une forme de, disons, de d'indépendance. Mais et donc elle ne considère pas qu'elle est d'un côté démocratique ou non démocratique. Néanmoins, elle aussi, elle peut être attirée par ce qui actuellement est un peu la caractéristique des églises orientales, c'est-à-dire l'idée de faire une sorte de barrage contre les évolutions sociétales. Qu'on sent beaucoup plus fortement dans toutes les églises orthodoxes. Je disais, l'Arménie ne fait pas exactement partie de ce groupe, mais son église peut avoir cette tentation-là, surtout au moment où le gouvernement réformiste apparaît, lui, très lié aux associations de défense des droits de l'homme, des orientations sexuelles, etc., etc. Donc, on pourrait retrouver paradoxalement une alliance des conservatismes des deux églises contre les sociétés civiles. Est-ce que c'est ce qui est à souhaiter? Peut-être pas.
Un dernier petit mot pour finir sur l'architecture extraordinaire qui unit aussi ces deux églises, ces deux histoires.
Oui, alors l'architecture, elle a eu ses heures de gloire entre le 6e et le 13e siècle, avec des particularités, des options, c'est-à-dire que les Géorgiens étant orthodoxes ne reculent pas du tout devant la figuration de l'humanité, alors que les Arméniens ont plus tendance à ce qui leur ouvre des échanges possibles avec l'environnement musulman, à plus faire de la décoration végétale ou symbolique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les églises ont tout de même globalement une forme générale qui est très proche, et qu'on peut suivre presque à 10 ans près les influences de l'un sur l'autre, sur leur décoration extérieure. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de cet rapprochement avec le Moyen-Âge, mais pour l'avenir.
Merci Michel Marian pour vous être prêté au jeu de cet exercice comparatif entre Géorgiens et Arméniens. J'espère que vous reviendrez.
Avec plaisir.
Je remercie pour la réalisation et la technique de cette émission Claire Poinsignon, Pierre Monteil, Vincent Abouchard. Nous retrouvons maintenant sur France Culture le service protestant. Bon dimanche.